Accent d'Europe, Juliette Garbrand.
Prendo la Vila Morena, terra da fraternidade.
Bonjour. Il y a 50 ans, le Portugal tournait la page de la dictature. Le 25 avril 1974 est resté dans l'histoire et les mémoires comme le jour de la révolution des œillets. Une révolution pour le Portugal, bien sûr, mais dont les racines et les conséquences dépassent les frontières du pays, de l'Afrique à l'Europe. En 1974, le dictateur Salazar est mort depuis 4 ans déjà. Sa succession n'a pas permis au pays de revenir à l'état de droit. Et le Portugal, qui vit sous régime totalitaire depuis plus de 47 ans, se tourne vers la démocratie et à terme vers l'intégration à la construction européenne. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Yves Léonard, professeur à Sciences Po, auteur de très nombreux ouvrages sur le Portugal. Je citerai « Sous les œillets, la révolution » aux éditions Chandaigne, plusieurs histoires du Portugal et tout récemment « Salazar, le dictateur énigmatique » aux éditions Perrin. Bonjour Yves Léonard.
Bonjour.
Cette date du 25 avril, c'est en fait le début de cette révolution des œillets. Mais avant d'entrer dans les détails, est-ce que vous pouvez nous décrire à grands traits à quoi ressemblait le Portugal au début de 1974?
Mais c'est un pays d'abord qui est en proie à des guerres coloniales, hein, qui durent depuis plus de 10 ans. Elles ont commencé en 1961, en Angola d'abord, puis ensuite en Guinée, puis au Mozambique. Et donc ça, c'est un effort de guerre considérable pour un pays relativement petit et qui va capter beaucoup de ses moyens financiers et humains. Beaucoup de jeunes vont fuir la conscription à ce moment-là, parce que la durée du service militaire passe à 4 ans en 1968. Donc il y a une émigration massive, et c'est un des rares pays d'Europe d'ailleurs à perdre de la population au début des années 1970. Et puis politiquement, c'est une dictature qui est en grande difficulté parce que le successeur de Salazar, Marcelo Caetano, n'a pas trouvé la bonne carburation. Il a tenté un temps de libéraliser le régime, on a appelé ça le printemps marcelliste en 1969, et puis ça n'a pas fonctionné pour un certain nombre de raisons, et notamment parce que les ultras du régime ne veulent céder en rien sur la question coloniale. Et donc c'est un système assez bloqué en début de l'année 1974, avec une pression internationale qui est assez ambivalente, parce que d'un côté les Occidentaux, avec l'Alliance Atlantique, défendent le Portugal, l'administration Nixon aux États-Unis est un fervent défenseur du régime salarial, lazariste. Et puis de l'autre côté aussi, il y a une ouverture qui se fait, un regard qui se porte du côté de l'Europe, parce que l'Europe, elle incarne une forme de modernité, elle incarne des échanges commerciaux. Et puis c'est là que vivent beaucoup de jeunes Portugais qui ont trouvé refuge, des exilés politiques. Donc c'est une société qui est en proie aussi à une crise. L'État commence à s'affaiblir fortement. Il y a des équilibres des finances publiques parce que le budget de l'État est capté pour près de 40% pour les dépenses militaires. Il y a une crise inflationniste en 1973, aggravé par la crise de l'énergie à l'automne 73, le choc pétrolier de 1973. Donc c'est une société qui est en grande difficulté, beaucoup de pauvreté, beaucoup d'interrogations et le sentiment chez beaucoup d'être à rebours de l'histoire, les vents contraires de l'histoire qui soufflent contre le Portugal et le régime salazariste.
À propos de Salazar, on va revenir quelques années avant et écouter, si vous voulez bien, une anecdote assez étonnante. C'est l'histoire de Domingo Abrantes, 80 ans aujourd'hui, qui a passé 11 ans en prison pour avoir appartenu au Parti communiste, interdit bien sûr, c'était en 1961. Il s'enfuit avec 7 codétenus d'une prison de Lisbonne à bord d'une voiture blindée, celle du dictateur.
C'est une histoire digne d'un film. S'évader dans une voiture de la prison, dans une prison qui est verrouillée, entourée de solides portails. Cette évasion est devenue historique. Ce fut la dernière évasion collective du fascisme. Et en utilisant un véhicule blindé de Salazar. On dit que Salazar n'a plus jamais voulu remettre les pieds dans cette voiture car elle avait été souillée par des communistes.
Des propos recueillis par Karina Branco du service de RFI en langue portugaise. Cette histoire, Yves Léonard, est restée célèbre. Qu'est-ce qu'elle nous raconte de l'époque ?
Elle nous raconte plusieurs choses. D'abord, effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont dans la résistance au régime qualifié de régime fasciste dans les années 1960. Ça dit aussi des choses sur la réalité aussi du pouvoir exercé par Salazar dans les années 1960. C'est un dictateur vieillissant. Il se croit encore omnipotent, mais il y a des zones d'ombre, des zones de porosité dans son propre entourage, parmi ses ministres, une technocratie nouvelle avec des hommes plus jeunes qui ne sont pas des hommes de sa génération. Bref, c'est quelqu'un d'assez vieillissant, qui garde la main ferme sur beaucoup de choses, dont la parole est d'or, comme on dit encore. Mais on voit ici et là des interstices dans lesquels un certain nombre d'opposants arrivent à se glisser. Et puis, ce genre d'événement, comme celui qui vient d'être raconté. Et donc, on voit bien que c'est très, très ambivalent. C'est-à-dire que Salazar est bec et ongle sur l'idée qu'il ne faut rien négocier outre-mer. Et l'opposition elle-même, elle est assez désarçonnée, mais active, parce qu'il y a eu pas mal de signaux avant-coureurs. L'année 1961 a été parcourue de tentatives, y compris d'une tentative de coup d'État du ministre de la Défense. Et puis, les étudiants se font de plus en plus entendre. Depuis 1962, ils sont en rupture de banc, ils critiquent le régime, l'absence de liberté publique. Bref, c'est tout ça, cette société salazariste des années 60.
Bien sûr, comme dans toutes les dictatures, la censure aussi était féroce. Les journaux étaient passés au crible. La police politique interdisait les livres subversifs. On va s'arrêter sur l'un d'eux qui a fait beaucoup de bruit. Il a été publié en 1972. Il a été écrit par trois femmes, dont Maria Teresa Horta, 86 ans aujourd'hui, qui a également rencontré Karina Branco.
C'est un livre politique, fondamentalement politique, écrit dans un pays fasciste par trois femmes. Et je pense qu'à cette époque, au Portugal, le fait que ce livre ait fait un tel effet de bombe n'a rien de surprenant. Le livre a été dès le départ un scandale. Ce livre, pour moi comme pour elle, a fait l'effet d'une lueur, car on vivait dans un pays fasciste où nous avions tous une tristesse intrinsèque, une immense révolte intérieure et extérieure. Et nous avons seulement compris que ce livre pouvait être dangereux, entre guillemets, quand il a été interdit.
Yves Léonard, Les Trois Maria, c'est le titre du livre. Ça a été un grand choc pour cette société portugaise de l'époque.
Oui, parce que c'est une analyse qui est à la fois militante et sociologique. C'est-à-dire que la dimension sociologique est très forte chez ces trois Maria. Elles ont écrit une enquête, en fait, sur cette réalité à la fois du régime salazariste, du mode opératoire, la torture, les emprisonnements, la prison et la police politique, la censure, mais aussi une étude de terrain sur ce qu'était la société salazariste de l'époque. Autrement dit, ce qu'elle dénonce, les trois Maria, c'est une société patriarcale, une société où les femmes n'ont guère de droit de citer et de moyens d'agir. Et donc, c'est une dénonciation en règle que font ces trois femmes de manière très courageuse. Et d'ailleurs, elles vont avoir beaucoup d'ennuis elles-mêmes, elles vont être emprisonnées. Et leur livre va rebondir en quelque sorte en 1974 lorsqu'il est traduit et publié en France aux éditions du Seuil. Et aujourd'hui, fait l'objet de rééditions et de travaux extrêmement importants. C'est un choc, mais un choc à la mesure d'une société où la diffusion des idées est encore très compliqué et où la classe moyenne est encore relativement réduite. Donc, l'audience que peut avoir ce genre d'ouvrage, c'est très important pour les résistants, l'opposition au régime, et ça attire aussi l'attention sur la scène internationale, à l'étranger. En revanche, sur la scène intérieure, tout le régime va s'arranger pour que ça reste quelque chose de masqué, de non-dit, et c'est pour ça qu'ils font tout pour que le livre, d'abord, ne soit pas diffusé, que les Trois Maria soient mises sous silence.
Cette image célèbre d'une enfant qui met un œillet dans le canon du fusil d'un soldat. D'où vient ce nom de Révolution des œillets ?
C'est dans la matinée du jeudi 25 avril. Hein. Les soldats, vous savez, ce régiment de blindés qui a pris le contrôle des ministères au petit matin et qui a obtenu aussi qu'on ne lui tire pas dessus, c'est-à-dire que le général qui commandait les forces restées fidèles au régime ont demandé de faire feu sur le capitaine Salgueiro Maia et ils n'ont pas fait feu, les soldats, parce que c'était des compagnons d'armes pour eux. Et donc, à ce moment-là, le coup d'État devient révolution et la foule qui était déjà très présente a compris que quelque chose d'important était en train de se passer. Bref, que ce n'était pas la réédition du Chili en septembre 1973 et que les militaires qui étaient là pour renverser le régime et étaient là pour promouvoir la démocratie. Et donc à ce moment-là, les blindés, le capitaine Salgueiro Maia et ses hommes remontent vers la caserne du Carmo parce que là, il y a le président du conseil qui s'est réfugié depuis 6h du matin avec deux de ses ministres. Et on lui a demandé à Maia d'aller prendre le contrôle, d'obtenir la reddition de Marcelo Caetano. Et c'est sur le chemin, dans la partie basse de la ville, que la foule est nombreuse et les soldats, d'un seul coup, repèrent des femmes sur le bord et leur demandent si elles ont des cigarettes. Et alors, il y a une de ces femmes qui dit « j'ai pas de cigarettes, mais j'ai des œillets ». Pourquoi elle a des œillets ? Parce que c'est la période qui veut ça, on est à la fin du mois d'avril. Elle-même, elle est fleuriste, elle doit les écouler dans des restaurants le midi. Les restaurants sont fermés parce que c'est le bazar au milieu de la ville. Et donc, spontanément, semble-t-il, Céleste Cairo, c'est son nom, va offrir ses œillets à ses soldats qui, spontanément, vont les mettre aux boutonnières de leurs uniformes et aux canons des fusils. Et c'est ça qui va baptiser, en quelque sorte, la Révolution. Donc, un mouvement assez spontané, très printanier, et qui est une image absolument extraordinaire, justement, pour désigner cette journée si particulière.
La révolution des œillets, donc on en parle avec vous, Yves Léonard. Démocratie, développement, décolonisation, ce sont les 3D, les objectifs des opposants à Salazar. On va s'arrêter sur la décolonisation. Quelques mois avant la révolution, donc la Guinée-Bissau proclame unilatéralement son indépendance. On est le 24 septembre 73, après 10 ans d'une guerre menée pied à pied par le mouvement de libération PAIGC, le parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, contre donc le régime colonial portugais. En janvier 73, à Conakry, l'assassinat du leader du mouvement indépendantiste, Amilcar Cabral, a précipité, en fait, pour ainsi dire, le cours de l'histoire. Engagé clandestinement au Portugal dans la lutte pour l'indépendance de son pays, le journaliste et écrivain Ernesto Dabo estime que la lutte anticoloniale a été un catalyseur du 25 avril au Portugal, un moment important pour l'émancipation des peuples. C'est ce qu'il a confié à Liliana Henriquez, journaliste du service lusophone de RFI.
Je ne pense pas que le 25 avril aurait pu voir le jour s'il n'y avait pas eu des révoltes dans les colonies. Et je ne pense pas non plus que la fin de la guerre en Guinée aurait été ce qu'elle a été sans le 25 avril. Ceci pour dire qu'il y a eu un processus dans lequel différents acteurs, chacun de leur côté, ont évolué jusqu'à l'objectif final. Le 25 avril a aussi joué un rôle actif d'un côté, mais qui a lui-même essentiellement été conditionné par le succès des luttes de libération dans les colonies. C'est là que le PAIGC a été le plus actif et qu'il a obtenu les résultats les plus notables. Et tout cela a finalement créé les conditions du déclenchement du 25 avril au Portugal. Parce que la lutte du PAIGC a non seulement fait tomber le régime colonial dans la métropole, mais a aussi énormément contribué à l'évolution du droit international. La proclamation unilatérale de l'indépendance a conduit les Nations Unies à accepter certains amendements et le droit international a fini par évoluer. C'est une contribution extraordinaire à la libération des peuples.
Yves Léonard, comment le colonialisme concrètement a-t-il accéléré la chute de la dictature ?
Ah ben parce que c'est un colonialisme tardif, c'est-à-dire une volonté qu'a eu Salazar à la fin des années 50 d'envoyer beaucoup plus de populations blanches sur place, de Portugais, de métropole, de faire des investissements qui n'avaient pas été vraiment réalisés jusque-là. Bref, pour lutter contre les vents contraires de l'histoire, hein, c'est-à-dire de considérer que le Portugal était une nation pluricontinentale, comme on le disait à l'époque, du Minou à Timor, Timor en Indonésie, pour montrer que le Portugal était un tout cohérent et que l'Algarve, c'était aussi portugais que la Lente et que l'Angola et le Mozambique. C'était une fiction d'une certaine manière, mais qui traduisait bien la force, l'importance du système colonial dans la pensée salazariste, dans le nationalisme impérial salazariste. Et donc, quand les mouvements commencent à éclore au début des années 1960, eh bien, Salazar décide de maintenir la situation en l'état, c'est-à-dire que c'est non négociable, parce qu'il dit deux choses. Il dit, si on perd les provinces d'outre-mer, le Portugal disparaîtra, et si nous perdons, nous, Portugais, eh bien vous, les Occidentaux, vous allez perdre cher parce que ça sera la déferlante communiste en Afrique et même en péninsule ibérique. Donc il y a une volonté très grande de verrouiller tout ça le plus possible. Et d'une certaine manière, oui, c'est ce qui va être le catalyseur, le déclencheur de la révolution des œillets parce que comme c'est une partie non négociable et que sur le terrain ça se passe pas bien, surtout en Guinée, effectivement, la Guinée c'est, comme on le dira à l'époque, le Vietnam du Portugal. La guérilla est très rude, le PAIGC est très organisé, les frères Cabral, Amilcar Cabral notamment, est une figure tutélaire et quelqu'un d'iconique pour tous les mouvements indépendantistes de l'époque. C'est une figure de Proust, un ingénieur de formation. C'est quelqu'un dont le discours porte énormément, et y compris même après sa mort, son assassinat en janvier 1963. Et donc la Guinée, pour les troupes portugaises, c'est un bourbier. Et les troupes qui sont sur place, elles sont commandées par un homme depuis 1968 jusqu'en 1973, le général Spinola, qui va jouer un rôle au moment de la révolution des œillets. Et le général Spinola dit « Nous n'y arriverons pas, il va falloir trouver une solution politique ». Et en gros, il dit au pouvoir civil « Caetano en tête, épargnez-nous l'opprobre, le déshonneur d'une capitulation. Parce que c'est ça qui menace en Guinée. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles l'autoproclamation de l'indépendance de la Guinée en septembre 1973 va ouvrir effectivement le champ et avoir des répercussions importantes. Donc, les capitaines d'avril, ceux qui vont faire le coup d'État le jeudi 25 avril, ils ont tous servi outre-mer. Otello Carvalho, tous ces gens-là ont combattu en Guinée, en Mozambique, en Angola. Ils connaissent tous la réalité de terrain. Et ils disent une chose très simple, nous ne continuerons pas. Parce que il faut trouver une solution politique. Et comme le régime est incapable depuis des années de trouver une solution politique, eh bien nous allons la trouver. Nous allons renverser le régime. C'est ça le facteur déclenchant. Et c'est ce qui donne une cohérence, une unité. Le MFA, le mouvement des forces armées, est très disparate. Il y a beaucoup de forces composites à l'intérieur. Mais il y a quelque chose qui les fédère, qui les rassemble pour la quasi-totalité, c'est qu'il faut arrêter cette boucherie et terminer le processus colonial.
D'autant que ces militaires voyaient la décolonisation en Afrique, elle avait commencé et ça ne se passait pas, comme le prédisait Salazar.
Rien ne se passe comme l'avait dit Salazar. La propagande du régime consiste à dire « nous continuerons massivement en force, nous sommes orgueilleusement seuls », disait Salazar aussi. Sauf que sur le terrain, la fiction de la nation, la colonisation douce, comme disait le régime, du lusotropicalisme, toutes ces choses-là, volent en éclats très vite. Et les jeunes officiers et les soldats qui sont sur le terrain, il y a quand même, à la veille de la Révolution, 140 000 soldats portugais qui se battent aux colonies. Et sur la durée, il y a plus de 800 000 jeunes portugais qui vont servir leur pays outre-mer. Donc c'est considérable comme effort
en
de guerre.
Décalage avec le reste
et
de
c'est
l'Europe,
un véritable traumatisme. Et ça, le discours salazariste du Mignou à Timor vole en éclats assez rapidement, d'autant plus que c'est complètement anachronique. Ils sont les derniers.
Revenons au Portugal et à ce 25 avril 2024, Yves Léonard, si vous voulez bien. Vous étiez récemment au Portugal, vous avez assisté aux préparatifs des très 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 nombreuses manifestations, célébrations organisées pour fêter la révolution des œillets. Cet anniversaire survient l'année même où l'extrême droite fait une percée inédite aux élections législatives. C'est une coïncidence inquiétante.
Oui, oui, un sale hasard, on dirait. Chega, cette formation née en 2019, ne fait pas mystère de son hostilité à la révolution des œillets. Elle considère que le Portugal se portait mieux le 24 avril 1974 que le 26 avril 1974. Considère que c'est une révolution de gauchistes, marxistes, qui n'a fait qu'apporter des désagréments au pays, et notamment sur son rayonnement, sa grandeur, bref, toute une rhétorique qu'utilise Chega autour du nativisme, d'un fond, on va dire, trumpien, « Make Portugal great again ». Bref, tout ça est très présent dans le discours de Chega. Et ils disent, le 25 avril, « Chega du 25 avril », assez du 25 avril. Alors que c'est la pierre angulaire, c'est ce qui a permis l'enracinement de la démocratie portugaise. Et on voit bien le paramétrage et le regard extrêmement... Et c'est la première fois avec une telle intensité, parce qu'il y a eu toujours une petite musique de réserve face au 25 avril, la révolution des œillets, notamment à droite de l'échiquier politique. Mais là, de manière aussi brutale, c'est quelque chose qui inquiète, oui.
Mais au-delà des cadres de Chega, par exemple, est-ce qu'il y a dans la population et chez leurs électeurs une vraie nostalgie et une remise en cause de l'évolution démocratique du pays ?
La nostalgie du salazarisme, non, certainement pas. Par contre, la nostalgie pour, comme on dit, les trains qui arrivent à l'heure, pour l'ordre bien tenu dans la maison, pour éviter qu'il y ait, entre guillemets, je parle trop d'étrangers, que ces étrangers apportent de l'insécurité. Bref, ça, c'est une musique qui est très, très active et qui fonctionne plutôt bien, et y compris chez les jeunes, parce que les jeunes ne votaient plus. Et quand ils votent, on l'a vu, la participation était plus élevée, les jeunes ont plus voté, mais ils ont voté qui majoritairement ? Ils ont voté Chega. Et ça, il y a un vrai souci, une vraie interrogation, parce que c'est nourri d'ignorance de ce qu'a été le 25 avril, d'ignorance de n'avoir pas vécu ce qu'a été la période qui a précédé le 25 avril, la dictature. Et c'est le problème de ces événements qu'on commémore il y a 50 ans. Beaucoup d'acteurs, beaucoup de témoins sont en train de disparaître. Donc la mémoire vive de cet événement est en train un petit peu de se diluer au profit de fake news, de post-vérité, comme on dit aujourd'hui, de bobards, qu'entretiennent notamment ce type de formation et notamment sur les réseaux sociaux.
Yves Léonard, merci. Je renvoie les auditeurs à votre biographie de Salazar aux éditions Perrin, Salazar, le dictateur énigmatique. Et je renvoie aussi les lusophones au site de RFI en langue portugaise qui publie toute une série de podcasts et un dossier passionnant sur le 25 avril. Françoise Grelot a réalisé cette émission. À bientôt.